Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guerriec en direct de la capitale américaine, vendredi 28 septembre 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir, ici aux États-Unis, c'est une bataille suprême à la commission judiciaire du Sénat autour de la confirmation du juge Kavanaugh à la Cour suprême. Au Mali, le quartier général de la force du G5 Sahel a été transféré de Sévaré à Bamako. Nous aurons aussi une interview exclusive avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le Burundi a suspendu pendant 3 mois les activités des ONG étrangères. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Ici, aux États-Unis, premier vote sous haute tension entre républicains et démocrates pour la confirmation du juge Kavanaugh à la Cour suprême. Coup de théâtre, déclaration indignée, les premières minutes de la réunion ont pris un virage spectaculaire. Certains sénateurs ont simplement refusé de participer au vote. Éric Manirakiza.
La réunion de la commission judiciaire du Sénat a démarré dans un climat de vive tension politique.
Il y a eu un update?
La réunion de la commission judiciaire du Sénat, Morgan, était incertaine ce matin, mais il a fallu un sénateur républicain clé pour la confirmation de Brett Kavanaugh qui a fait pencher la balance bien plus nettement en sa faveur. Et c'est le même sénateur, Jeff Flake, qui vient de jeter le pavé dans la mare, qui demande maintenant qu'on repousse le vote en séance plénière avec tous les sénateurs, qu'on repousse le vote d'une semaine pour permettre au FBI d'enquêter sur les allégations de la dame Blazer Ford qui accuse Brett Kavanaugh qui accuse donc Brett Kavanaugh. Et c'est cette enquête du FBI qui était réclamée par les sénateurs démocrates qui n'ont pas approuvé justement le vote d'aujourd'hui pour permettre au vote en séance plénière. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les républicains détiennent la majorité au Sénat avec 51 sièges contre 49 pour les démocrates et ne peuvent se permettre qu'un désistement. Le doute demeure toujours sur la décision de deux sénatrices républicaines qui défendent le droit à l'avortement, Susan Collins et Lisa Murkowski, du côté des démocrates. Il y a des sénateurs élus dans des terres pro-Trump et qui jouent, eux, leur réélection. Et tout ça concentre également toute l'attention. John Flake a promis à ses collègues démocrates qu'il va plaider cette cause auprès de la Maison Blanche, parce que pour qu'il y ait cette enquête du FBI, le président Donald Trump doit l'autoriser.
Merci Eric. Au Mali, le quartier général de la force anti-djihadiste du G5 Sahel a été transféré de Sévaré à Bamako, la capitale, sur décision de son commandant. On fait le point avec Idriss Fall.
Le général mauritanien Hanena Ould Sidi, chef de la force du G5 Sahel, travaille déjà avec son équipe sur place à Bamako. En tant qu'organe de coordination, le siège de cette force doit se trouver là où les communications et les liaisons sont meilleures. L'officier mauritanien a succédé en juillet au général malien Didier Dako. Ce remplacement a été décidé lors d'un sommet du G5 le 2 juillet à Nouakchott en présence du président français Emmanuel Macron. C'était peu après un attentat djihadiste le 29 juillet contre le quartier général de la force à Sévaré qui avait fait 3 morts dont 2 militaires maliens. En un an, cette force a atteint quelque 80% de ses effectifs prévus de 5000 militaires. Elle a mené quelques opérations avec l'appui logistique de la force française Barkhane. Cependant, le G5 Sahel n'a pas encore d'impact réel sur le terrain où les djihadistes multiplient les attaques meurtrières. Son budget de quelque 420 millions d'euros a été bouclé après plusieurs réunions, mais les fonds tardent à venir. Cette semaine, la question du mandat robuste du financement du G5 a été évoquée aux Nations Unies par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta.
Dans le nord-est du Mali, l'armée française a arrêté une dizaine de combattants de l'ex-rébellion à dominante Touareg, soupçonnés de collusion avec des djihadistes. L'opération qui a eu lieu hier à Ménaka a mobilisé jeudi 120 parachutistes. Ces arrestations se sont produites au quartier général de la coordination des mouvements de l'Azawad. 8 combattants sont soupçonnés d'être des infiltrés des djihadistes dans le mouvement. 24 ans après le génocide au Rwanda, les juges d'instruction parisiens ont terminé leurs investigations sur de possibles responsabilités de l'armée française dans le massacre de Bicêtre en juin 1994, sans prononcer d'inculpation. L'absence de suspect ouvre la voie à un non-lieu. Les parties civiles entendent déposer de nouvelles demandes d'actes avant les réquisitions du parquet et de la décision finale des juges d'instruction. Au Cameroun, les deux collectifs d'avocats qui défendent les victimes du déraillement d'un train en 2016 à Eseka ont estimé trop faible le montant des indemnités déterminées par la justice. Le point avec Bagassi Koura.
Mercredi, un tribunal d'Eseka a condamné l'entreprise Camorai, filiale du groupe Bolloré, à payer 50 millions de francs CFA de réparation aux 60 victimes défendues par maître Olivier Moteng. « Nous ne sommes pas satisfaits de la décision du tribunal d'Eseka », a indiqué maître Moteng. L'avocat réclame 2 milliards de francs CFA de dommages et intérêts pour ses clients. Le montant des indemnités de plus de 220 autres victimes défendues par un deuxième collectif d'avocats n'a pas été déterminé. Ce deuxième collectif réclame plus de 150 milliards de francs CFA. Par ailleurs, les avocats rappellent que le milliard de francs CFA promis il y a plus d'un an par la présidence camerounaise n'a pas été reçu par les familles ou ayant droit. Le 21 octobre 2016, la route Yaoundé-Douala a été coupée suite à de fortes pluies. Les voyageurs étaient obligés de prendre le chemin de fer. Au train de 9 voitures a été ajouté 8 wagons. Et la vitesse a fait le reste. Le train a déraillé à Eseka, dans le centre du pays, faisant 79 morts et quelques 600 blessés.
L'opposant togolais Nicodème Ayao Abia a poursuivi sa grève de la faim pour un dixième jour. Couché devant l'ambassade du Ghana à Lomé, l'ancien député exige notamment la libération des personnes détenues dans le cadre des manifestations contre le pouvoir. Au Sénégal, un soldat français a été inculpé pour coups et blessures volontaires et placé en détention provisoire. Il est accusé d'avoir violemment frappé un Sénégalais lors d'une rixe à la sortie d'une discothèque de Dakar. La victime hospitalisée souffre d'une fracture à l'os frontal gauche, selon son avocat, et de multiples contusions cérébrales.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a réuni aujourd'hui à New York ses homologues des pays arabes du Golfe alliés de Washington. Nous avons tous un intérêt partagé dans une vaste série de sujets liés à la sécurité, a-t-il dit au ministre des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe. Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, Koweït, Bahreïn et Oman, ainsi que l'Égypte et la Jordanie. Il a évoqué la nécessité de vaincre l'État islamique, Al-Qaïda, les autres groupes terroristes et de ramener la paix et la stabilité en Syrie. Le département d'État américain a ensuite assuré que tous les participants étaient d'accord sur la nécessité de contrer les menaces représentées par l'Iran à l'endroit de la région et des États-Unis. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a rejeté les accusations de l'ONU au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, selon lesquelles l'Iran abriterait un site de stockage atomique secret, les Kabaoud.
Jeudi, Benjamin Netanyahou a accusé l'Iran, carte à la main depuis la tribune de l'ONU, d'abriter un site de stockage atomique secret à Téhéran. Comment Israël, le seul détenteur d'armes nucléaires au Moyen-Orient, peut-il accuser ainsi sans honte un autre pays dont les programmes ont été jugés pacifiques à maintes reprises par l'Agence internationale de l'énergie atomique ? S'est interrogé M. Zarif selon l'agence officielle iranienne IRNA. Monsieur Netanyahou s'est à nouveau félicité du retrait en mai des États-Unis, l'allié d'Israël, de l'accord international sur le nucléaire iranien. Cet accord conclu à Vienne en 2015 a permis de mettre fin à des années d'isolement de Téhéran par une levée partielle des sanctions économiques. En échange, l'Iran avait accepté de limiter drastiquement son programme d'enrichissement de l'uranium pour garantir qu'il ne cherche pas à se doter de l'arme atomique. Israël est la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient mais n'a pas signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
La chaîne hôtelière américaine Hyatt Hotel envisage de plus que doubler le nombre de ses hôtels en Afrique d'ici 2020 pour profiter de l'amélioration des liaisons aériennes et de la forte croissance économique du continent. Les nouveaux hôtels du groupe Hyatt seront implantés entre autres à Nairobi, à Addis Abeba et à Arusha. Hyatt Hotel dispose actuellement de 9 hôtels sur le continent africain. L'Éthiopie devrait enregistrer une croissance économique de 8% pour l'année fiscale 2018-2019, indique un communiqué du Fonds monétaire international. Les incertitudes liées à la stabilité économique et politique s'estompent, ce qui a entraîné une amélioration des investissements directs nationaux et étrangers. Le développement du secteur privé devrait aussi permettre une nouvelle hausse de la croissance économique pour l'exercice fiscal en cours. Stanbic Bank Botswana a signé avec l'OPIC, l'institution de financement du développement du gouvernement américain, un contrat de garantie de prêt de 125 millions de dollars pour soutenir le secteur du diamant. La croissance continue de ce secteur devrait aussi avoir des effets positifs sur des secteurs comme l'électricité, les finances et les affaires. Enfin, pour finir, le groupe marocain Banque Centrale Populaire a annoncé avoir réalisé un bénéfice net de 170,5 millions de dollars au premier semestre 2018. Cela représente une hausse de 1,8% par rapport à la même période de l'année précédente. Au premier semestre 2018, le produit net bancaire du groupe a atteint une hausse de 2%.
Au pas de course, Eric Manirakiza nous rejoint pour les sports. Bonsoir Eric.
Bonsoir Morgane.
Organisation de la CAN 2019, la CAF rendra sa décision après la présidentielle au Cameroun.
La Coupe d'Afrique des Nations 2019 est prévue au Cameroun, mais son organisation a été souvent remise en cause. Le malgache Ahmed Ahmed, patron de la CAF, dit qu'un comité exécutif de la CAF est plus choqué par le rapport d'audit sur l'avancement des travaux à Yaoundé et d'autres villes camerounaises. Le patron du football africain rappelle qu'il avait regretté en août 2017 l'inertie du Cameroun à propos des travaux en vue de la CAN 2019.
Le stade d'Antananarive suspendu pour les 3 prochains mois.
Le président du jury disciplinaire de la CAF a communiqué la sanction aujourd'hui et elle est sans appel. La Fédération malgache de football est interdite de faire jouer la sélection nationale dans le stade de Mahamasina et paiera une amende de 10 000 dollars. Le 9 septembre, il avait été le théâtre d'une bousculade mortelle avant le coup d'envoi d'une rencontre contre le Sénégal, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019.
Après l'attribution de l'Euro 2024 à l'Allemagne aux dépens de la Turquie, la presse turque fulmine contre l'UEFA.
Le quotidien Yeni Safak parle d'un choix qualifié de coup de poignard dans le dos. Ce n'est pas juste, l'UEFA a donné son soutien au racisme, a tonné en une le quotidien, précisant que c'est l'Europe qui a perdu. Les commentaires véhéments de la presse tranchent avec la réaction mesurée du ministre turc des Sports qui s'est contenté de juger désolant le choix de l'UEFA.
Le choc de la Première Ligue demain en Angleterre.
Des duels hauts en couleur à 16h30 temps universel. C'est Chelsea-Liverpool ou Blues contre Red. Salé contre Alonso, Jorginho contre Milner, Alexander-Arnaud contre Hazard, sans oublier le duel tactique Jürgen Klopp et Maurizio Sarri sur les bancs. Il y aura aussi Manchester United contre West Ham. Le manager mancunier José Mourinho a annoncé Paul Pogba dans sa liste des 11 titulaires.
Et enfin, le basket féminin au Mondial 2018 en Espagne. Les Américaines et les Australiennes passent en demi-finale.
Les invincibles basketteuses américaines ont battu aujourd'hui le Nigeria en quart de finale, 71 à 40. Les Australiennes ont surclassé la Chine, 83 à 42. Invaincues en compétition internationale depuis plus de 12 ans, les Américaines joueront en demi-finale contre la Belgique ou la France.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta reconnaît que la force conjointe du G5 Sahel peine à devenir opérationnelle. Et c'est à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies. Raissa Girondin, notre envoyé spécial à New York, a eu hier une interview exclusive avec le président Ibrahim Boubacar Keïta.
Aujourd'hui, nous sommes butés à un problème. Le financement de cette force conjointe. On a mis en place une force conjointe. Cette force conjointe a besoin d'être opérationnelle. Et pour qu'elle le soit, il faudrait que son budget soit enfin en place. Parce que dans ce genre d'opération, il est surtout très dangereux dans l'incertitude, dans le hasard. Dès que les opérations commencent, il faut que c'est poursuivre de manière continue. Et toute cette interruption est préjudiciable à l'efficacité. 423 millions d'euros, madame, ce n'est pas la mer à boire. Pour autant, nous avons encore une gap aujourd'hui de financement. Nous espérons que tout le plaidoyer qui est développé ça et là va aboutir à la conclusion effective de ce bouclage de financement.
Mais est-ce que vous avez donc une alternative au G5 Sahel pour...
Il n'y en a pas. Je pense que chacun convient que c'est le mode opératoire le mieux adapté aujourd'hui. Et chacun nous dit également vouloir nous aider à faire aboutir nos préoccupations dans le domaine de la plus grande publicité. Je pense que les valeurs civilisationnelles dont nous réclamons tous sont en cause aujourd'hui. On sait ce que Daesh a fait dans l'Est européen. La coalition internationale a réussi à le bouter maintenant, pratiquement. Hors des endroits, des grandes villes que Daesh occupait. Mais le reflux s'opère en pleine direction, s'opère vers nous. Et vers nous, à travers un pays comme la Libye, qui aujourd'hui pose problème, un grand problème d'instabilité.
Comment doit évoluer donc le mandat en fait, de la MINUSMA?
Le mandat de la MINUSMA, aujourd'hui, à l'évidence, pose problème. C'est un paradoxe. Faire la paix, stabiliser la paix, alors même qu'elle n'est pas là. Stabiliser une paix impossible. Quand tous les jours, chaque jour, les actes de violence, les actes d'agression se développent contre les musulmans, contre les populations civiles, contre les villages paisibles maliens, contre les forces maliennes et les forces alliées, il faut donc que la mission dévolue aux forces amies d'aménagement soit une mission un peu plus robuste. C'est ce que nous demandons, pas plus.
Voilà, c'était le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à New York.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
En Guinée-Bissau, le recensement pour les élections législatives a finalement commencé avec près d'un mois de retard. Le président José Mario Vaz a été le premier à s'inscrire. Le premier ministre Aristide Gomez a déclaré qu'il s'agit d'une phase très importante pour les élections prévues le 18 novembre. Ces législatives vont-elles permettre de sortir de la crise qui frappe le pays depuis 4 ans? Idriss Fall a joint Toulinabo Mushingi, ambassadeur américain à Bissau, de passage à Washington.
Ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup d'espoir. Je crois que tous les signaux paraissent positifs. Les conversations, j'ai déjà visité la Guinée-Bissau 6 fois dans une année. Mes conversations avec les dirigeants des partis politiques, les conversations avec le gouvernement, en passant par le président, le premier ministre, d'autres ministres de l'Intérieur, ministres de Défense, etc., ministres des Finances, les conversations avec le peuple moyen, le peuple lambda, tout le monde est prêt, tout le monde s'attend à ce que les élections aient lieu.
Maintenant, le problème, les tenues, c'est une chose. Ouais. Mais vous savez bien, la Guinée-Bissau, le problème, c'est après les élections.
Oui. Ça, nous avons déjà entendu ça. Nous avons déjà entendu cette formule plusieurs fois, que le problème, c'est après les élections. Mais tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que, d'après mes conversations sur le terrain, c'est que le peuple de la Guinée-Bissau est prêt pour essayer d'avancer, pour essayer de mettre ce chapitre derrière eux. Nous, les États-Unis d'Amérique, ce que nous sommes en train de pousser, c'est que la solution doit venir du peuple de Guinée-Bissau lui-même. Les différents partis politiques qui se connaissent, en fait, hein, tout le monde, à un moment ou l'autre, appartenait au même parti politique. Donc les différents partis politiques doivent s'asseoir entre frères et sœurs, entre frères et filles du même pays, et discuter, dire quelles solutions nous voulons pour notre pays. Moi, ce que je leur dis, une fois qu'ils se seront mis d'accord sur la solution qu'ils veulent, la ligne de conduite qu'ils décident de suivre, de mettre les intérêts du pays, les intérêts du peuple, au-dessus des intérêts individuels, des intérêts des partis politiques, une fois qu'ils arriveront à ce niveau-là, et je crois qu'ils sont dans cette trajectoire d'essayer d'arriver à ça, et à ce moment-là, ils peuvent maintenant dire, vous, nos amis, les États-Unis d'Amérique, où est-ce que vous pouvez nous aider à ça? C'est ça la position que je suis en train d'essayer de pousser.
Toudinabo Mushingi, ambassadeur américain à Bissau, de passage à Washington.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Burundi a suspendu pendant 3 mois les activités des ONG étrangères jusqu'à ce qu'elles se mettent en conformité avec une nouvelle loi contrôlant strictement leurs opérations. Qu'en est-il des activités en cours? Quel impact sur les bénéficiaires? Nani Talani a recueilli la réaction de Tcherina Gérolone de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme.
Ce qui est certain, c'est que cette décision est prise dans un contexte où les violations graves des droits humains continuent d'être perpétrées au Burundi, et cela en toute impunité. Les exécutions sommaires se poursuivent, les disparitions forcées se poursuivent, d'autres violations très graves sont perpétrées. Pour l'essentiel de ces violations, la responsabilité des autorités burundaises, des forces de défense et de sécurité, des Imbonerakure, donc la milice proche du pouvoir, est clairement mise en cause. Ça s'inscrit dans un contexte où le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a lui-même rendu un rapport au début du mois de septembre indiquant que des violations graves des droits humains se poursuivaient au Burundi.
Quel impact la suspension des ONG internationales au Burundi peut-elle avoir sur les populations qui bénéficient des activités de ces ONG?
Tout dépendra aussi des ONG qui sont concernées, mais il va sans dire que les populations burundaises sont particulièrement affectées par la crise majeure qui a éclaté dans ce pays en 2015, que la situation économique est particulièrement alarmante, qu'il y a encore un nombre important aussi de personnes dont les proches sont partis. Enfin, il y a voilà, des structures familiales qui ont été complètement mises à mal. Donc c'est vrai que les ONG indépendantes, pour certaines d'entre elles, viennent pallier et viennent en soutien à ces populations qui sont affectées et qui ne bénéficient pas nécessairement du soutien qu'un État tel qu'il devrait l'être apporterait à ces populations-là. Ce que l'on craint, c'est que cette décision, donc, mais qu'elle ait encore une fois un impact direct sur les populations burundaises. Le départ de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme et la crise en elle-même a clairement eu des impacts directs sur les populations civiles au Burundi qui sont les premières affectées par cette crise qui est en cours depuis 2015.
Et comment vous-même percevez-vous l'avenir des ONG au Burundi? Est-ce que vous gardez encore un espoir?
On garde évidemment un espoir parce que la société civile burundaise demeure très active, même en étant en exil, très active pour faire en sorte que la situation au Burundi reste une priorité pour la communauté internationale. Il y a quand même une mobilisation importante de la société civile burundaise.
Tcherina Gérolone de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
ici aux États-Unis, la commission judiciaire du Sénat a voté à 13h de Washington pour devait confirmer en tout cas ou non le juge Kavanaugh nommé par le président Donald Trump à la Cour suprême. Il y a eu des coups de théâtre, déclarations indignées. Les premières minutes de la réunion ont pris un virage spectaculaire. Certains sénateurs ont simplement refusé de participer au vote. Éric Maniarakiza a joint l'analyste Emilio Viano.
Ça a été une audience historique d'une rare intensité et suivi en direct par des millions d'Américains. Il y avait une grande différence. Christine Ford est apparue tout en retenue. Au contraire, le juge Kavanaugh, tout en indignation. Et ce sont deux vérités irréconciliables qui se sont confrontées devant la commission judiciaire après que l'universitaire de Saint-Candinan a accusé le candidat de Trump à la Cour suprême de l'avoir agressé sexuellement dans sa jeunesse.
C'est compliqué d'établir la vérité.
C'est très compliqué, particulièrement quand il n'y a pas la volonté politique de le faire. Parce que on n'a pas fait une investigation de la FBI sur les accusations de la Dr. Ford. C'est vraiment le problème, n'est-ce pas, que la démocratie de laquelle les Américains sont très fiers et qui même ils l'ont présenté comme un modèle à la planète entière, paraît en ce moment ne pas fonctionner comme il devrait. Les deux partis, les démocrates et les républicains, ont cessé de s'accorder sur les règles du jeu, de leur affrontement, et ils n'ont pas plus la capacité de s'entendre, de gouverner d'une façon prévisible. Et ça, c'est un grand problème pour le pays.
La commission est apparue fortement divisée, très divisée. Ils étaient des deux côtés trop partisans. Est-ce un mauvais jour pour la démocratie américaine?
Je voudrais dire oui. Malheureusement, c'est un très mauvais jour et particulièrement c'est un mauvais jour aussi pour les femmes et les victimes d'agressions sexuelles, que ce soit des hommes ou des femmes, qui peuvent maintenant penser que vraiment pas beaucoup a changé pendant les 30 ans dernières, quand on a travaillé suffisamment, on penserait pour avancer la cause des victimes.
Voilà, c'était Emilio Viano, professeur de sciences politiques à l'American University.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h sur Universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook, tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est Layana, je t'aime trop. C'est la fin de cette édition. Firmin à la mise en onde, Morgane Guiriec à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM.
Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayigouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.